à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment survivre dans l'Amérique du 21e siècle avec la journaliste Jessica Broder, auteure de Nomadland chez Globe Éditions. C'est une enquête en immersion dans la tribu itinérante des perdants de la crise de 2008 qu'elle vous racontera, à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, le sexe, la mort, l'argent. Après le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, après un Oscar du meilleur film étranger, 3 Césars et un prix du scénario à Cannes, le Québécois Denis Arcand revient avec La chute de l'Empire américain en salle mercredi prochain, une critique en règle du nouveau capitalisme sur fond de hold-up mené par un braqueur philosophe, une escort girl au cœur tendre et un ancien taulard reconverti dans l'optimisation fiscale. L'argent a son propre langage que la plupart des gens ne comprennent pas. On va tenter de trouver les mots ensemble avec notre invité jusqu'à 12h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Braqueur malgré lui. Après des études de philo, Pierre-Paul devient livreur. Lors d'une course, il assiste à la fin d'un hold-up qui tourne mal. Il dérobe les 2 gros sacs remplis de billets avant que la police n'arrive, passe entre les mailles du filet et prend la fuite. Que faire ? Mais que faire de cet argent sale ? Où le placer ? Comment le recycler ? Sur sa route, il va croiser une call girl surnommée Aspasie et un ancien taulard qui n'a pas manqué de suivre des cours de gestion à l'Université du Québec pendant ses années de prison. Bonjour Denis Arcand.
Bonjour.
Cette semaine, en France, un convoyeur de fonds s'est envolé avec 3 millions d'euros. Sauf que lui, il a été arrêté hier avec son butin et sa complice. C'est en lisant ce type de nouvelles dans le journal qu'est née l'idée de ce film.
Exactement. Sauf que, en général, ces gens-là sont repris 3 jours plus tard, une semaine plus tard, éventuellement, parce qu'ils commettent souvent, je ne sais pas les détails de la dernière histoire, mais ils commettent souvent des erreurs grossières. Et moi, ce que j'aime dans ce genre de film-là, je me dis toujours, si c'était un type très intelligent, qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent-là? Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, prenons un agrégé de philosophie qui n'a pas trouvé d'emploi parce que les baby boomers occupent tous les postes à l'université et qui a choisi d'être livreur parce que c'est mieux que d'être chargé de cours à temps partiel. Et lui, il va être assez brillant pour ne pas commettre les fautes que tout le monde commet. Donc, il apporte l'argent chez lui, il le contemple, il le regarde. Et là, il y a un problème moral pour commencer. C'est l'argent de la drogue. Donc, c'est de l'argent qui appartient en principe à personne. Les gens qui l'ont donné, ils l'ont donné pour s'acheter un fixe d'héroïne ou de cocaïne. Il est là. Alors, est-ce qu'il va appeler la pègre en disant « Bonjour mes amis, si vous cherchez votre 12 millions, ils sont chez moi, passez donc les prendre. » C'est un peu ridicule. Il pourrait appeler la police. La police, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder la moitié de cette somme pour le service de police, caractéristique particulière de la situation à Montréal, et le reste va aller au gouvernement. Le gouvernement est totalement inefficace. Il gaspille nos impôts à qui mieux dans des projets faramineux, idiots, comme les Jeux olympiques, comme des tas de choses comme ça. 12 millions pour un individu, c'est une somme énorme. Pour le gouvernement, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et cet océan s'enfonce dans un trou noir dont on ne voit jamais le fond. Est-ce vraiment utile de leur donner? Pourquoi pas le garder et peut-être faire quelque chose d'utile avec, peut-être en profiter, etc. Voilà le dilemme qui se pose.
Et c'est dans cette atmosphère-là que vous diagnostiquez la chute de l'Empire américain, extrait de votre film, en salle mercredi prochain.
La plupart des grands écrivains étaient bêtes à manger du foin. Dostoïevski a vendu le manteau de fourrure de sa femme pour aller jouer au casino. Il était sûr de gagner, incapable de comprendre la loi des probabilités. Tolstoï interdisait à ses paysans de se faire vacciner. Louis-Ferdinand Céline s'est réfugié en Allemagne avec les derniers SS. Un fou furieux. Hemingway se prenait pour un boxeur. C'est pas des types brillants.
Tu vas me parler des philosophes?
Pire, Heidegger était nazi. Jean-Paul Sartre était stalinien. À la fin de sa vie, il chantait les louanges de Paul Pot. Althusser a étranglé sa femme. Aussi lamentable que les politiciens. George Bush, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, ce sont de pauvres insignifiants. Donald Trump.
63 millions d'Américains ont voté pour lui.
C'est sûr. Les imbéciles adorent les crétins.
Donc il n'y a que des imbéciles partout, c'est ça?
Non. Non, il y a des gens très intelligents.
Surtout des hommes, j'imagine?
Non. Autant de femmes que d'hommes.
OK, puis ils sont où, ces gens-là?
Isolés. Au bord de la mer. Dans les montagnes. Des fois, dans des appartements en ville. Dans des monastères, dans des laboratoires. Tu liras jamais leur nom dans un journal. Tu les verras jamais à la télé. Ils écrivent pas de blog. Ils ont pas de page Facebook.
Ils travaillent comme livreurs et ils sortent avec des caissières de banque divorcées.
C'est ça.
Et est-ce qu'ils font aussi des films? Lui, c'est Pierre-Paul, avant le casse du siècle, un peu désabusé, mais toujours idéaliste. Il y a de lui en vous, Denis Arcan?
Mais bien sûr, il y a de moi dans tous les personnages. C'est ma vie que je raconte sous une forme déguisée, bien sûr.
Toujours. Pierre-Paul, il cite Platon, il cite Aristote, il cite Kant, il cite Wittgenstein durant tout le film. C'est des philosophes qui sont pour vous toujours en phase avec notre époque, qui ont encore beaucoup à nous dire.
Ah oui, bien sûr. Oui, la philosophie, c'est éternel. La seule chose, c'est que autrefois, et là je vais avoir l'air de Michel Onfray, mais quand les Grecs et les Romains, pour eux, la philosophie, c'était d'abord l'art de bien vivre, être ami de la sagesse. Et quelque part en chemin, la philosophie s'est perdue. Elle est devenue une histoire de jeu, de concepts. Complètement abstraits, qui n'ont comme plus de rapport avec la réalité, ce qui fait que Heidegger est un nazi. Alors, si vous prétendez d'une façon ou d'une autre être ami de la sagesse et être nazi, là on est dans l'absurde total. Et défendre Pol Pot, c'est un des pires génocides de notre époque, c'est de la démence. Et donc les philosophes sont devenus fous. Et c'est des problèmes que nous avons, il n'y a plus personne pour nous indiquer de route à suivre. Nous sommes perdus.
Un décalage qui se crée entre les idées qu'ils ont pu défendre et ce qu'ils ont pu faire dans leur vie ou leur action, leur militantisme d'hommes aussi. Le film soulève une autre question qui est proche de celle que vous évoquez, plus morale, plus philosophique. Qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est éthique? Alors, il y a des perles de répliques dans ce film. « Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais il ne faut pas qu'il y ait de victime », dit Pierre-Paul. Ou alors Aspasie, Camille, la prostituée de luxe. « Moi, au sens de la loi, je suis une criminelle, mais je n'ai jamais fait de mal à personne. Généralement, c'est plutôt l'inverse. » Vous pensez que dans ce moment d'égarement où nous sommes, que vous venez d'évoquer, il faudrait refonder un peu notre système de valeurs?
Mais bien entendu, nous sommes en déficit de philosophie. La dernière grande philosophie pratique que nous avions, c'était le marxisme. Ou si vous étiez membre du parti, ou en tout cas si vous étiez sincèrement communiste, vous pouviez avoir une éthique facilement, vous pouviez suivre facilement une éthique, ce qui contribuait à l'avènement de la société sans classe, à la marche vers le grand soir. Cela était moral, cela était éthique. Bon, avec la disparition du marxisme qui a été la dernière grande philosophie de l'Occident, nous sommes en panne et il n'y a plus rien. Donc chacun doit définir son éthique à lui ou à elle. Et ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut soi-même trouver une solution. Et c'est ça qui m'allume dans l'histoire que j'ai racontée, c'est que c'est quelqu'un qui se retrouve avec 12 millions et il n'y a pas de solution facile. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a pas de chemin direct. Et donc, il est dans notre position à tous et c'est pour ça qu'on est obligé de prendre autant d'antidépresseurs et de calmants et de choses comme ça, parce que chaque personne doit définir pour elle-même son chemin. Il n'y en a plus de défini pour tout le monde qui serait facile d'adopter.
En même temps, il n'y a que dans votre film ou dans vos films, Denis Arcan, qu'un braqueur philosophe altruiste arrive à vaincre ou à réussir dans la vie, dans le business aujourd'hui. L'intelligence et la sincérité, à vous croire aussi, sont plutôt des faiblesses, non, pour réussir dans la vie?
C'est-à-dire que pas nécessairement, comment dire, tout ça est horriblement compliqué. Et donc, réussir dans la vie, ça veut dire quoi? C'est sûr que, bon, il y a plein de gens qui... Il y a tout un long chapitre de mon film qui est sur le blanchiment d'argent ou ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et puis, avec ça, il y a des gens qui se rendent extrêmement riches. Et par contre, il y a aussi des gens qui sont extraordinairement pauvres. Alors, mon héros va essayer d'atténuer ça et de faire un peu son possible. Mais il n'est pas entièrement, c'est pas un saint. Je raconte pas l'histoire de Saint-François d'Assise. Il fréquente une girl super riche, qui l'aide. Ils sont un peu amoureux. On ne sait pas tout à fait vers quoi, de quoi leur avenir va être fait. Et j'aime bien cette situation ambiguë-là. Tout ça reste un peu ambigu.
Dans le confort de l'indifférence, vous jouiez déjà un peu de ce décalage entre les principes et la réalité, entre les élites et le peuple. Il est un peu Robin des Bois quand même, votre Pierre-Paul. Il prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Mais attention, on l'a entendu, la police est à ses trousses. Dans cette manière que vous avez, vous, Denis Arcand, vous réapproprier ce film de genre, hein, de gangster, de braqueur, de hold-up. Il y a un peu du Audiard, je trouve, en vous. Et aussi un petit côté tonton flingueur de Lautner dans La Chute. Personnages, des personnages, les vaut totalement à croquer. Des dialogues très importants, des perles, on l'évoquait. On écoute Michel Audiard.
Il y a un terme qui revient, on dit de Michel Audiard, on dit modestie roublarde.
Mais je suis pas tellement modeste, je vois pas pourquoi. Le mot roublard me gêne pas, mais le mot modeste me contrarie énormément.
Puis il y a une autre chose qui revient aussi, on dit que dans vos dialogues, vous égratignez les bourgeois sans leur faire finalement trop de mal ni trop de peine.
Vous savez, moi, je crois qu'il ne faut pas tricher avec les histoires. Si dans l'histoire que je raconte, il y a un bourgeois déplaisant, ignoble ou malin, je le ferai. Si ce bourgeois, par contre, a une certaine qualité d'homme, pourquoi ? Parce qu'il est bourgeois, c'est là que je tomberai dans le lieu commun, parce qu'actuellement, le bourgeois, faut l'assassiner. Y a pas de problème si on veut être dans le sens du vent, hein. Si on fait un bourgeois potable, actuellement, on est un facho, hein. Faut voir les choses en face. Bon. Alors, moi, maintenant, ça m'amuse de faire un bourgeois bien. Parce que faut que je sois tout à fait franc, je déteste pas emmerder le monde. Ça, faut bien que je dise tout de même. Sans ça, on comprendrait pas tout. Vous comprenez? Si j'écris un film qui est un peu une comédie de boulevard, bon, si on prend un bourgeois dans une comédie de boulevard, c'est pour en faire un clown. Mais le bourgeois, c'est rien du tout, ça n'existe même plus, les bourgeois. Je crois qu'il n'y a plus que dans le monde du spectacle qu'on continue à en parler, c'est des gens qui ont complètement disparu.
Alors, double question pour vous, Denis Arcand. D'abord, est-ce que vous êtes un modeste roublard?
Non, je vais répondre exactement la même question, la même réponse que lui. Je suis pas modeste du tout, et je suis même pas roublard.
Non plus. Et sur les bourgeois, est-ce que vous aimez, vous, emmerder le monde?
C'est-à-dire que tout mon travail est fondé sur de la recherche. C'est pour ça que je fais, en fait, si peu de films. Je fais un film tous les 4 ou 5 ans. Et en général, j'ai pas des principes généraux de ce type-là. Est-ce que j'aime les bourgeois? Est-ce que j'aime les pauvres? Non. Je pars de chez moi et je rencontre un commissaire de police et je passe 6 mois avec lui et je lui fais lire toutes les étapes de mon scénario. Je me lie d'amitié avec un ex-taula qui était motard et il me parle de ce qu'il faisait, de ce qu'il veut faire, de comment il est. Et donc ça, quand on fait ça et qu'on passe beaucoup de temps, 2 ans à 3 ans presque à écrire et à préparer ça, les personnages gagnent en épaisseur. C'est-à-dire, ça ne devient pas des références cinématographiques. C'est pas des personnages que j'ai pris dans d'autres films. C'est pas une imitation de 50 policiers que j'ai pu voir. C'est mon policier dont je parle. C'est mon financier dont je parle. C'est celui qui m'explique comment il fait, qu'il m'explique que pour que de l'argent change de pays, il ne suffit d'un seul clic d'ordinateur. Le même clic qui vous fait déposer vos économies à la caisse ici, ben c'est la même chose. Vous faites clic et l'argent est déjà aux îles Vierges anglaises. Bon, il m'explique ce genre de choses-là. Et à fréquenter tout ce monde-là, y compris la call girl. Bon, les étudiants en philo, ça, je les fournis moi-même. J'étais étudiant en histoire, c'est pareil. Mais tout le reste des personnages, c'est leur fréquentation, le fait que je prends des notes, que je les connais, ce sont mes amis, et je fais des films sur des gens que je connais.
La police, quand elle s'agit de l'argent, là, elle fait quoi avec, tu penses?
Je sais pas. Ils la remettent au gouvernement?
La moitié. L'autre moitié reste dans le service de police. Ils se financent en partie avec ça. La police cherche toujours d'abord l'argent. Corliss.
La chute de l'Empire américain, c'est aussi un film sur le pouvoir corrupteur de l'argent. On voit que l'argent a pris le pouvoir sur tout. Qu'est-ce qu'il a le plus corrompu pour vous, Denis Arcan, l'argent ?
Moi, je pense que l'argent n'a pas corrompu. L'argent a gagné par défaut. C'est parce que tout le reste est disparu. Avant, il y avait le ciel. Mes parents travaillaient pour avoir une belle place au ciel, disait ma mère. Mmh. D'autres, par exemple, les immigrants de première génération qui arrivent au Canada, les parents se sacrifient pour leurs enfants. Ils passent des vies à travailler n'importe où, dans des buanderies pendant 20 heures par jour pour que leurs enfants deviennent pharmacien ou dentiste ou quelque chose comme ça. D'autres, autrefois, se consacraient au socialisme, au parti. Quand tout ça disparaît, il reste juste une chose, le fric. Et le fric devient omniprésent parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Et donc, il a gagné par défaut, si vous voulez. Et donc, il a une importance gigantesque, une importance dans tout, dans toute la vie. Il devient la seule mesure, la mesure du succès. Et ça, je trouve ça un peu désolant.
Il avocat d'ailleurs au sujet de la peinture impressionniste qui oui. trône dans son bureau dit « J'avoue que c'est une extravagance, mais là encore, il faut de l'argent pour pouvoir aimer la peinture. » Évidemment, on peut toujours aller au musée.
Hein. J'aime quand vous me citez. Vous êtes très bonne comédienne, vous auriez dû penser à faire ça.
Bon, pour le prochain alors.
Oui, d'accord.
Poète et essayiste, à ce propos, je vous propose d'écouter les mots d'Annie Lebrun. Elle dénonçait dans un livre paru récemment qui devrait vous parler « L'enlaidissement du monde ». Ce livre s'appelait « Ce qui n'a pas de prix ».
Le problème actuel de ce monde-ci est de nous convaincre qu'il n'y a pas d'alternative, c'est la suite de ce qu'affirmait Thatcher, et qu'il n'y a pas de sortie sinon de participer pleinement à ce monde qui se définit par une forme de marchandisation totale. La seule issue qui nous est proposée, c'est la marchandisation de tout, et quand c'est tout, et c'est ça qui est le plus grave, c'est tout ce qui n'a pas de prix. On essaye maintenant d'investir, il y a une sorte de un essai de colonisation qui est bien avancé de nos paysages intérieurs, parce que c'était quand même là le seul lieu de résistance qu'on pouvait avoir.
Quels sont les lieux de résistance pour vous aujourd'hui, Denis Arcan ? Ces sphères qu'il faut absolument préserver ?
La création. La création sous toutes ses formes. Enfin, je parle pour ma paroisse, mais enfin, moi, c'est ma planche de salut. Si j'essaie de justifier ma vie à mes propres yeux, c'est que j'essaie de faire les meilleurs films possibles. Et puis d'autres essaient de faire les meilleurs livres possibles, mais les meilleures pièces de théâtre possibles, les meilleures peintures, etc. Et ça, moi, ça me donne l'espoir. Et aussi, puis là, ça va paraître complètement mièvre, des gens qui font la charité. Il y a des gens qui s'occupent des SDF maintenant à Paris. Il y a des gens qui opèrent des refuges, qui à cette heure-ci maintenant là vont faire à manger et vont servir de la soupe. Alors ça, c'est à la fois la création et la bonté, si vous voulez. Mais il y a des gens, encore une fois, qui sont admirables.
Et on a besoin de croire encore en des choses pour vous, Denis Arcan, croire en Dieu, de croire en quoi ?
C'est ça le problème, on est en défaut de philosophie, il faut que quelqu'un...
De croyance ou de philosophie ?
Pardon ?
De croyance
oui,
ou de philosophie ?
Ça. Exactement, mais oui, mais il faut la créer, cette philosophie-là, elle n'existe pas. Tout ce qui existait jusqu'à maintenant ne correspond plus à ce que nous vivons. Donc, il faut que quelqu'un, ou des gens, ou un mouvement, il faut que quelqu'un nous trouve un sens, nous trouve une direction. Et je ne suis pas sûr qu'on va en trouver. En tout cas, pas tout de suite. Ça va peut-être prendre beaucoup de temps.
Il y a une exposition l'été dernier aux Rencontres d'Arles qui m'a fait penser à votre Jésus de Montréal, où un curé engage un jeune comédien pour qu'il interprète une nouvelle version de la Passion du Christ. C'était l'exposition Les photographies du Norvégien Jonas Bendiksen, qui était intitulé Le Dernier Testament. Et c'est assez rigolo, il a parcouru le monde, du Brésil en passant par le Japon, l'Afrique du Sud, pour y photographier cet homme qui était persuadé persuadé d'être le Messie, persuadé de détenir aussi cette vérité. Dans votre film, il est dit qu'il n'y a pas de paradis sur Terre, hein, et peut-être quelques paradis fiscaux, mais malheureusement, le reste est à chercher ailleurs. Pas de paradis, vous croyez qu'on peut quand même reconstituer d'une manière ou d'une autre des îlots protégés sur notre Terre aujourd'hui ?
Certainement. Absolument, il y a des gens qui réussissent, comme dans la citation précédente. Il y a des gens qui vivent dans des montagnes ou qui vivent au bord de la mer ou dans la plaine du Larzac ou je ne sais où, puis qui ont une communauté et qui vivent en paix. Ce qui m'ennuie, c'est que ces gens-là sont inconnus, qu'ils ne sont jamais proposés comme exemple et que l'enfer médiatique ne nous fait voir que des crétins et comme disait cette dame, l'envahissement total de la marchandisation.
Et le cinéma, qui est quand même votre forme d'art premier, si vous ne pensez pas, et vous l'avez déjà dit, qu'un simple film peut changer la réalité, quelle autre bonne raison vous avez trouvé, vous, pour continuer à faire des films ?
Mais parce qu'il y en a... À côté de Batman contre Superman et Wonder Woman contre je ne sais qui, il y a aussi des gens qui font des films admirables, qui sont très beaux et qui méritent d'être vus. Il y en a 10 qu'on peut citer, 20, 30, puis qui se font encore aujourd'hui, qui sont superbes. Amores Perros, si vous regardez la vie des Mexicains, c'est au moment où il a fait le film, c'était extraordinaire. Léviathan, le film russe qui a été tourné au fin fond de la Sibérie, était extraordinaire. Il y en a plein, il y en a aujourd'hui, il y en a tout le temps. Donc moi, ça me donne plein d'espoir.
France Culture, midi 24, avec le réalisateur cinéaste Denis Arcand, à l'occasion de la sortie de son film mercredi prochain, La Chute de l'Empire américain. Un grand souffle, un grand vent québécois souffle sur cette grande table ce midi. Tu es le plus beau des films que j'ai regardé. Pop rock pétillante, le nouveau phénomène venu du Québec, c'est Hubert Lenoir, 24 ans, du groupe The Seasons, qui a fait sensation en solo aux dernières transmusicales de Rennes. Extrait de son album projet Darlene, paru sur le label Simon Records, qui a échauffé nos critiques de la dispute ce mardi. Pascaline Potvin de Grazia disait, c'est finalement l'histoire assez simple d'une jeunesse qui essaye de se libérer. Il a choisi une couleur un peu glamour rock, qui est très maligne, peu puisque peu d'artistes le font dans sa génération. Tandis que notre Arnaud Laporte disait « Le disque ne m'a pas encore rattrapé, mais il faut dire que je cours assez vite devant lui. Ça a été assez pénible pour moi d'écouter ce disque. Je n'ai pas trouvé de porte d'entrée. » Je vous invite à réécouter cette émission critique en intégralité. Nous, en tout cas, à la Grande Table, on était heureux de vous le faire découvrir. Et votre avis critique, à vous, Denis Arcand, sur Hubert Lenoir et ce titre, « La fille de personne 2 ».
Je ne sais pas encore. Je vais vous expliquer que j'ai une fille de 23 ans qui a tout sur son téléphone. Et généralement, quand elle monte dans ma voiture, elle s'occupe de ma culture. Et elle dit, bon, là, j'imagine que tu ne connais pas Hubert Lenoir non plus. Elle m'a dit, la dernière fois, donc mon dernier coup de cœur, ça a été Charlotte Cardin, que je ne connaissais pas. Et puis elle m'a dit, bon, là, il est temps que tu écoutes Charlotte Cardin. Donc elle met ça dans ma voiture, puis elle m'oblige à écouter. Puis elle me dit, ça, c'est très bon, etc. Donc ma culture vient d'elle, et elle je ne crois pas qu'elle a encore Hubert Lenoir, mais je suis sûr que c'est le prochain voyage en voiture que je vais faire. Je vais me familiariser avec l'ensemble de son œuvre.
Et vous lui direz que quand vous êtes passé en France, vous avez eu du Hubert Lenoir à la Grande Table. Hein.
Voilà, je vais lui dire qu'elle est déjà en retard, ce qui va la froisser considérablement.
Voilà, et leur leitmotiv, celui de Hubert Lenoir et de sa compagne, pourrait être celui de votre Pierre-Paul. Être ce que l'on veut, pas ce que l'on peut.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Alors, il y a eu le déclin de l'Empire américain, puis il y a eu les invasions barbares de Denis Arcand, et maintenant, la chute de l'Empire américain. Est-ce que ce film a été vraiment pensé comme une troisième partie, comme la suite de ses précédents? Quel point commun, quel fil avez-vous tissé entre les trois?
Le titre de travail de ce film-là, c'était « Triomphe de l'argent ». Et puis, je me suis aperçu, à un moment donné, que Triomphe de l'argent, c'était pas tout à fait ce que je voulais dire. Et puis après ça, je me suis dit, tiens, je vais le relier aux trois autres, puisque c'est le même sujet.
Et voilà comment la trilogie est née. On y retrouve dedans vos acteurs, certains fétiches. Rémi Girard qui joue Sylvain, The Brain dans La Chute, Rémi dans Le Déclin et les Invasions Barbares, et puis Pierre Curzi qui joue ici Maître Tachereau dans La Chute, qui était Pierre dans Le Déclin et les Invasions. Et dans ce troisième volet, vous avez aussi ouvert le cercle des acteurs, travaillé avec une nouvelle génération qui est arrivée dans votre film et qu'on espère retrouver dans les prochains.
J'espère.
Ils sont magnifiques
bien.
Tous les deux, Pierre-Paul et Camille.
Oh, superbe.
Beau casting. Merci beaucoup, Denis Arcand. Je rappelle donc que ce nouveau film, La Chute de l'Empire américain, le vôtre, sera en salle mercredi prochain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir.